du cinéma. Se rend-on suffisamment compte que le cinématographe est le premier moyen entièrement nouveau qui ait été fourni aux hommes pour représenter une action dramatique avec ses circonstances et ses personnages, depuis les Dionysiaques et le chariot de Thespis? Il est singulier qu'aussitôt en possession d'établir et de conserver une image exacte de la vie et de ce qui les intéresse dans la vie, les hommes aillent tout de suite et tout droit aux épisodes les plus niais, les plus factices, les plus saugrenus. À l'impossible, nul n'est tenu, mais ne parle-t-on pas précisément des merveilleuses possibilités de l'art cinématographique? Pascal recommandait aux hommes « abêtissez-vous ». Le savant clermontois, qui passe d'ailleurs à tort pour avoir inventé la brouette, n'avait pas imaginé cependant les merveilleuses possibilités du cinéma. Il est indispensable de noter que la grande extension des exploitations cinématographiques a coïncidé avec une période où, après les secousses d'un bouleversement mondial, nous ne souhaitions peut-être pas de nous abêtir, mais ne souhaitons certainement rien d'autre que de ne pas nous fatiguer. Les véritables amateurs vous confient « Ce qu'il y a d'agréable au cinéma, c'est que tu es bien installé, tu vois de jolies images, tu entends de la musique, un minimum de paroles, et tu n'es obligé de penser à rien. Tu penses. » Les gens qui ne pensent à rien affirment que c'est pour mieux rêver. C'est pourquoi le texte du cinéma parlant, pour ne pas gêner la rêverie du spectateur, doit être vide de toute pensée. Il s'en charge. Il y a toujours eu des chœurs romanesques, mais convenez que ceux d'aujourd'hui sont favorisés entre l'aviateur et la vedette de cinéma. On ne refusera pas au cinéma qu'il ait, à défaut de beautés intellectuelles, accordé sa place à la beauté physique. Une des séductions de l'aviateur, et non des moindres, est qu'il risque sa vie magnifiquement. Une des séductions de la vedette de cinéma et combien magnifiquement elle la gagne. Le cinéma a créé partout autour de lui une atmosphère de contes de fées de mille et une nuits, à la fois par les spectacles qu'il évoque et par la pluie d'or qu'il répand. Prenez garde que son prestige serait gravement compromis le jour où ses principaux interprètes ne toucheraient plus que des appointements de sociétaires à part entière, et où l'on apprendrait que l'on n'a pas dépensé plus pour tourner un film que pour monter une pièce à la Comédie française. La supériorité du cinéma sur le théâtre, c'est qu'il est un bien plus grand marchand d'illusions et qu'il transporte partout sa boutique. Un film est le même à New York, à Londres, à Berlin, à Paris et à Quimper-Corentin. Et la midinette et le petit employé de Quimper-Corentin se persuadent qu'ils n'ont qu'à faire du cinéma puisque tout le monde peut en faire, pour triompher eux-mêmes et gagner des millions à Paris, à Berlin, à Londres, à New York. Combien de fois le nom d'Hollywood, nom difficile cependant, n'est-il pas prononcé jusque dans les plus lointaines, les plus humbles bourgades du Languedoc et de la Basse-Bretagne? Et comment l'y prononce-t-on? Pour médiocre que l'art cinématographique se soit montré jusqu'ici à peindre les mœurs, il n'en reste pas moins que nul avant lui n'avait exercé sur elle une telle influence et les avait à ce point modifiées. Mettez un cinéma dans le bourg de Normandie où elles se morfond, et il vous faudra réécrire Madame Bovary. Du journalisme. Le journalisme consiste à écrire dans les journaux, ce qui ne signifie pas que tout ce qui paraît dans les journaux ait été écrit par des journalistes. Celui qui rédige le bulletin politique est un journaliste. Celui qui rédige le bulletin des Halles, on l'appelle un journaliste. Celui qui rédige le bulletin financier s'intitule un journaliste. Et il y a des journalistes d'opinion, des journalistes d'information et même des journalistes de chantage. Comment voulez-vous que le public s'y reconnaisse? Le public a cessé de considérer le journaliste uniquement sous l'aspect d'un homme qui a ses grandes et ses petites entrées chez tous les ministres, qui tutoie des actrices et qui écrit ses articles sur une table de café. Mais il continue de voir en lui le regaillard aux poches toujours pleines de billets de théâtre et de permis de chemin de fer. Et comme le rêve de tout Français a toujours été de ne pas payer sa place dans les salles de spectacle ni dans les trains, c'est pour cela que vous voyez tant de jeunes Français souhaiter l'entrée dans le journalisme. On peut avoir composé des vers charmants, avoir la tête remplie de projets de romans et de pièces de théâtre, et ne pas savoir rédiger un fait divers ni mener une enquête dans les commissariats de police. Mais cela s'apprend, et mieux qu'à faire des vers. On a trop dit que le journalisme était une chose et la littérature une autre chose, d'accord. Mais cela ne les empêche pas d'entretenir des relations qu'ils ont l'un et l'autre intérêt à rendre les meilleures et les plus fréquentes. Ils sont tout de même de la même famille. L'homme de lettres n'est pas forcément un journaliste qui a réussi, ni le journaliste un littérateur qui a mal tourné. Chronique s'emploie aussi avec le sens de répétition. Et quand ce journaliste se flatte d'avoir une idée par jour, il entend qu'il ne lui est pas interdit de reprendre plusieurs fois d'anciennes idées à lui, et même celles des autres. Un livre, un poème, aujourd'hui méconnu, il n'est pas défendu d'espérer qu'ils prendront leur revanche, qu'ils auront leur tour. Un article de journal, un numéro de journal, c'est tout de suite qu'il faut qu'ils trouvent leur lecteur et qu'on les lise. Tout de suite ou jamais. Faire un journal n'est rien, le problème est de le faire lire. Ce n'est pas une fois par hasard, c'est tous les jours qu'il faudra que les gens, en échange de leurs 2 sous, de leurs 5 sous, prennent l'habitude de demander tel journal, ton journal. À toi de créer cette habitude, de la transformer peu à peu en un besoin, comme du pain quotidien. Tâche admirable, mais souvent décevante, et jamais facile. Il devrait être beaucoup pardonné aux journalistes, parce qu'il leur aura fallu beaucoup aimer leur métier. Oui, il y a des journalistes indépendants. Oui, il y a des journalistes désintéressés. Oui, il y a des journalistes de talent. Et ce sont les mêmes, pourquoi pas, de l'éducation. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu des hommes de génie et des héros, avec voire des saints, qui étaient des rustres. Mais la société n'est pas composée de saints, de héros, d'hommes de génie. Ceux-là, nous les admirons, mais nous ne vivons pas avec eux. Et les gens avec qui nous vivons, et qui n'ont ni grande sainteté, ni génie éblouissant, ni prodigieux héroïsme, il est tout de même bien agréable que ce soit des gens bien élevés. Ne confondons pas l'éducation et les convenances. Mettre l'orthographe n'empêche pas toujours les fautes de français. On n'a que trop tendance à juger un convive moins sur sa façon de s'exprimer que sur la façon dont il pèle une pêche. Un haut rang, une grande fortune ne sont pas toujours des gages de bonne éducation. Et parfois un très haut rang semble autoriser celui qui l'occupe à se montrer mal élevé, comme une très grande fortune, celui qui la possède à se montrer ladre. Il y a de malhonnêtes gens qui sont parfaitement élevés, mais cela vaut mieux encore que s'ils étaient malhonnêtes et mal élevés. J'aime à répéter ce que le vieux bourgmestre de Bruges disait aux Allemands qu'il avait arrêté après leur entrée dans la ville. « Fusillez-moi si vous voulez, mais soyez polis. » Il faut bien voir que les bonnes manières sont d'un usage plus courant que les beaux sentiments. L'éducation est d'abord une discipline, mais ce n'est rien d'appliquer une discipline si l'on ne sait au nom de quel principe l'appliquer. Certaines méthodes d'éducation modèlent de charmantes statues, mais des statues posées de travers et sur le sable. Tu te décourages et te lamentes. « Oh, croyez-vous que l'on fasse ce que l'on veut de ses enfants ?» Et si l'on en faisait ce que l'on veut, nos enfants seraient pourvus de toutes les perfections. L'éducation, sans être une garantie absolue contre les mauvais instincts, gêne leurs manifestations, les retarde. Et c'est toujours ça de gagner. Pourquoi ne voulez-vous pas que les bonnes habitudes se prennent comme les mauvaises, et que les mauvaises se perdent comme les bonnes ? Sous prétexte que l'on ne fait pas ce que l'on veut, ce n'est jamais une raison pour ne rien faire. Disons-nous bien qu'il y a toujours un moment où l'on reconnaît un trait de caractère, une expression, un geste, une nuance, un rien. Si tu as été élevé dans ta famille ou par des étrangers, si tu avais perdu ta mère. Hélas, quelle est lourde la responsabilité d'une mère qui s'occupe si peu de ses enfants que l'on pourra croire plus tard qu'il l'avait perdue. Un père ne remplace pas une maman. Mais que ce ne soit pas pour décourager les pères dans leurs tâches non moins nécessaires d'éducateurs. Et faut-il que les plus que les mères soient frivoles, plus les pères se fassent négligents? La faillite de l'éducation aboutit à ce renversement. Les pères demandent conseil à leurs fils et les mères semblent élevées par leurs filles. Eh bien, n'est-ce pas encore une forme d'éducation? Du mariage. Quand on parle du mariage, pourquoi prendre aussitôt cet air badin ou malin? Je vous assure qu'il n'y a pas de quoi rire. Mariage d'inclination, de raison, d'intérêt, de convenance, la question est moins de savoir pourquoi l'on se marie que comment on se comporte et comment on se supporte une fois marié. Des gens se marient comme on se jette à l'eau. N'en est-il pas qui prétendent que pour apprendre à nager, c'est la bonne méthode? On a dit que si on réfléchissait avant le mariage, on ne se marierait jamais. Il y a bien d'autres choses que nous ne voudrions jamais faire ou que nous n'aurions jamais faites à la réflexion. L'officier de l'état civil n'est pas un sorcier, et au nom de la loi, vous êtes unis, n'est pas une formule magique pour conjurer le mauvais sort. Le mariage n'est qu'un moyen d'être heureux, l'erreur serait de le confondre avec le bonheur. Peu de gens mariés auront passé toute une longue existence conjugale sans connaître une heure, une minute où ils regrettaient de n'être point célibataires. Je le crois, mais je crois aussi que bien peu de célibataires, parmi les plus endurcis, n'auront jamais, une heure, une minute, souhaité d'être mariés. On s'étonnera que pour un mariage, on s'entoure parfois de moins de garanties, on exige moins de références que pour le choix d'un secrétaire ou d'une dactylographe, d'une nourrice ou d'un maître d'hôtel. Comme nous avons du mal à nous rendre un compte exact de ce qu'est le temps, la durée. Quand nous aimons, nous sommes persuadés que c'est pour la vie, et nous nous persuadons beaucoup plus difficilement que c'est pour la vie. Et cela pour tout de bon que nous sommes mariés. Mettre en commun toutes les joies et toutes les peines ne consiste pas à ce que l'un prenne toutes les peines et l'autre toutes les joies pour soi. On ne saurait dire d'aucun homme ni d'aucune femme qu'il soit fait pour le mariage. Le mariage est toujours un certain mariage auquel il faudra que s'adapte chacun de son côté, chacun des conjoints. On critique ces ménages qui ne sont, dit-on, que des associations. Mais est-ce que tout ménage ne doit pas être aussi une association? Ne te plains pas trop si ta félicité conjugale semble se réduire bientôt à une série d'habitudes. C'est toujours ça. Il y a de bonnes et de délicieuses habitudes. Je conviens que l'exemple de Roméo et Juliette a plus d'éclat que celui de Philémon et Baucis, mais leur bonheur dure moins longtemps. Et c'est donc ce que serait devenu le ménage de Roméo et Juliette. Opposer l'amour et le mariage a été l'invention mensongère et intéressée d'un amant qui ne voulait pas épouser sa maîtresse, ou d'une femme qui redoutait la maternité. La vérité est que le mariage apparaît bien au contraire comme la pierre de touche de l'amour. Un homme et une femme qui s'avancent dans la vie et tout le long de leur vie la main dans la main, ce n'est qu'une image. Oh, mais c'est tout de même une assez belle image. Des vieillards et des jeunes gens. Un jeune homme est un jeune homme, un vieillard est un vieillard. Et c'est également un tort de traiter le premier comme un futur vieillard et de prendre le second pour un ancien jeune homme. Si tu veux considérer que tout jeune homme est un vieillard qui commence, et tout vieillard un jeune homme qui continue, C'est donc que la vieillesse serait l'épanouissement de la jeunesse, ou enfantillage. On déclare avec un grand accent de mélancolie et d'un ton nostalgique. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Et là-dessus, on ajoute que savoir, c'est pouvoir. Ben, il faudrait s'entendre. On se fait plus facilement illusion sur ce que l'on sait que sur ce que l'on peut. Un vieillard n'a pas à se lamenter ni à regretter constamment de n'être plus jeune. Mais il ne doit pas oublier non plus qu'il l'a été. Un vieillard dit volontiers « Oh, de mon temps !» Un jeune homme aussi, seulement le temps dont parle chacun n'est pas le même. Un jeune homme ne peut envier un vieillard que ce qu'il possède. Un jeune homme, un vieillard envie ce qu'il est. Un vieillard est riche de ses souvenirs, un jeune homme de ses espérances. Le trésor des souvenirs est limité par notre mémoire, le trésor de l'espérance est illimité. Un vieillard gorgé d'or et chargé d'honneur dit à ce jeune solliciteur avide et affamé « Mais je donnerai tout ce que j'ai pour avoir votre âge. » Mais celui-ci ne le croit pas. Quand on oppose des vieillards et des jeunes gens, on s'imagine toujours que la renommée et la fortune sont l'ordinaire et le naturel apanage de la vieillesse. Mais il y a aussi de vieilles gens qui sont des ratés et très misérables. Le manque d'indulgence dans la façon dont certains vieillards jurent certains jeunes gens peut passer pour de la jalousie. Et des jeunes gens à l'égard des vieillards, ça ne peut être que de la cruauté. Comme les jeunes gens sont pressés, comme les vieillards sont tenaces. Si chacun consentait à occuper sa place, il aurait certainement de la place pour tout le monde. Mais les jeunes bousculent les vieillards, qui s'entêtent à vouloir demeurer parmi les jeunes gens. L'âge n'est rien quand on a la santé. Il serait plus exact de dire que quand on n'a pas la santé, rien n'est rien. Une hygiène habile et soigneuse, des artifices de toilette ingénieux, prolonge une confusion des âges dont on est quelquefois la dupe et toujours en fin de compte la victime. Et ce que je dis des hommes, je suis bien obligé d'ajouter que je le dis aussi des femmes. Car l'âge n'a pas de sexe et le mot vieillard n'est en particulier ni masculin ni féminin, mais neutre. On reproche à ce vieil homme, à cette femme qui est plus jeune, de ne pas savoir vieillir. Hélas, ils ne le savent pas, nous le savons pour eux. On s'émerveille de voir comment le quadragénaire, qui faisait figure de barbon dans les comédies de Molière, apparaît le parfait séducteur du théâtre contemporain. Comment une femme de 30 ans, que Balzac nous présentait au sommet, sinon au déclin de sa carrière amoureuse, est de nos jours prise ou presque pour une ingénue. Et ce sera peut-être, en effet, l'une des conquêtes de la société future et la plus forte originalité de nos petits neveux et nos petites nièces, que pour eux et surtout pour elles, la vieillesse ne commencera guère qu'aux alentours du septuagénat. Grand bien leur fasse. Mais ce sera toujours reculé pour mieux sauter. Des voyages. Il y a bien des façons de voyager, bien des sortes de voyages. Voyages d'affaires, voyages d'exploration, voyages d'agrément. Et pourtant, au seul mot de voyage, tous tant que nous sommes, et quels qu'ils doivent être, nous dressons l'oreille, nous humons le vent. Voyager, c'est moins s'éloigner de chez soi que sortir de soi. Un homme en voyage n'est jamais tout à fait le même qu'au coin de son feu. Personne ne se trouve si bien chez soi qu'il n'éprouve par instant le besoin d'aller autre part. Même au paradis terrestre, il n'est pas sûr que le premier homme n'eût pas fini par demander à Dieu d'être chassé, non plus comme punition, mais comme récompense pour voir du pays. L'inquiétude humaine, c'est surtout le désir de changer de place. Un voyageur peut ignorer la géographie comme un marin ne pas savoir nager. Il y a les voyageurs qui ne tarissent pas en récits de voyage, et ceux qui semblent n'avoir rien vu, rien retenu, et à qui il faut, comme on dit, arracher les paroles. Peut-être ces derniers sont-ils les vrais voyageurs, qui, en voyageant, ne songeaient qu'à leur voyage et non à ce qu'ils en raconteraient de retour. Ce n'est pas partir qui est mourir un peu, c'est arriver. Content de partir, content de rentrer, dit cet autre. Alors il n'est qu'un niais ou un hypocrite. Je n'aime pas entendre vanter avec cette emphase les joies du retour. Vous n'aviez qu'à ne pas partir, ou si pour goûter le commerce de certaines gens, la possession de certaines choses, il vous faut d'abord les avoir quittées. Ce ragoût de l'absence que vous proclamez aussi nécessaire n'est sans doute pas très flatteur pour eux, ni très rassurant. Celui qui est allé partout, voulez-vous que son imagination l'emmène ? Mieux vaut goûter le regret nostalgique de certains pays où nous n'irons pas, de certains voyages que nous ne ferons jamais. Les Indes, le Japon. Ah, si j'étais libre ! Ah, si j'étais riche ! Mais tu es libre, tu es riche et tu ne vas ni aux Indes ni au Japon. Les uns préfèrent explorer sans cesse des contrées nouvelles, d'autres retourner chaque fois qu'ils le peuvent au lieu qu'ils avaient visité une première fois. C'est toujours la question de savoir qui vaut le mieux, de lire ou de relire. La plus pressante invitation au voyage n'est ni la sirène du bateau, ni le sifflet de la locomotive, ni le ronflement du moteur de l'automobile ou de l'avion. C'est un parfum, une couleur, un nom. L'odeur de l'ananas ou de la vanille, le plumage d'un oiseau de paradis, Pampelune, Honolulu, Chandernagor. N'est-il voyage que sur la mer ? Nous sommes moins sensibles à la poésie, à la séduction des gares qu'à celle des ports. Il y a de grands voyageurs qui ne sont jamais partis de l'histoire. On n'entre pas dans l'histoire, on y est. Seulement il est impossible de s'en rendre compte, et le pourrait-on, ne le dirait pas. Qui donc décide, ceci est de l'histoire, ceci n'en est pas ? Qui donc trie et choisit les faits historiques, les personnages historiques ? Au nom de quels principes, en vertu de quel pouvoir, et qui les a choisis eux-mêmes ? Qui les en a sont chargés ? L'un écrit l'histoire des mœurs, l'autre des institutions, celui-ci l'histoire politique, celui-là l'histoire militaire. Mais comment arrive-t-il à distinguer tout cela ? Comme si les individus, les peuples, les nations, les gouvernements s'étaient dit bien gentiment au fur et à mesure « Attention, nous allons travailler pour l'histoire militaire, un peu pour l'histoire politique à présent, attention !» Il semble bien que l'importance d'un fait, d'un personnage, dépend de la place que lui consacrent les historiens. Cependant, ce que ce personnage accomplit de plus ou moins important, comme les conséquences plus ou moins importantes qui auront découlé de ce fait, l'historien, qui n'existait pas encore, n'était pas là pour en juger, et de lui surtout, il est manifeste que ça ne se préoccupait guère. Que l'histoire enregistre des noms, des faits, des dates, c'est-à-dire des résultats, c'est lorsqu'elle se pique d'indiquer les causes qu'elle risque de compromettre et de perdre tout son crédit. Les explications de l'histoire sont comme toutes les explications données après coup. On les sentira d'autant moins conformes à la réalité qu'elles se présenteront comme plus ingénieuses et plus élégantes. Il n'y a pas d'histoire impartiale, puisque l'histoire est un choix, et que choisir, c'est préférer, et qu'il y a forcément un parti pris dans toute préférence. Mieux vaut encore les historiens qui s'avouent franchement des partisans. Cela, du moins, ne trompe personne, ou s'ils nous trompent, c'est que nous l'aurons bien voulu. Le triomphe d'un historien, c'est quand il est arrivé à établir le caractère apocryphe ou erroné de ce qu'un autre historien considérait comme authentique. Mais qui nous assure qu'un autre encore ne triomphera pas du triomphateur ? Pour croire à la sérénité de l'histoire, il ne faudrait pas l'avoir aux mains d'historiens qui se dressent les uns contre les autres avec si peu de sérénité. Qu'est-ce que la philosophie de l'histoire ? On a tout lieu de craindre que ce ne soit ni de l'histoire, ni de la philosophie. Chaque peuple est fier de son histoire et il a raison. Mais comme toute histoire d'une nation se modifie et s'amenuise, dès qu'on la confronte dans un même ouvrage avec celle des autres nations, qu'un jour on écrive une histoire générale, non seulement du monde, mais des mondes, avec des éléments qui ont pu être également fournis par Mars et les autres planètes, à quoi se résumera notre histoire à nous, notre belle histoire dont nous sommes si fiers? L'histoire, c'est l'expérience des peuples. Il n'y a pas plus à espérer que les peuples profitent des leçons de l'histoire que les individus des leçons de l'expérience. On nous montre l'histoire comme un perpétuel recommencement, mais pourquoi recommençons-nous? Du bonheur et du plaisir. Confondre le bonheur et le plaisir et parler indifféremment de l'un ou de l'autre, c'est commettre d'abord une impropriété de termes analogue à celle de ces écoliers qui, dans leur narration, qualifient belle une riante colline et jolie le Vésuve en éruption. Belle une petite chansonnette et jolie un grand air d'opéra. Pourquoi mépriser et calomnier le plaisir? Il y a des plaisirs stupides et grossiers, mais il y en est aussi d'aimables, et s'il est vrai qu'il soit facile, toute fleur n'a pas besoin de se cacher au fond d'un fourré impénétrable pour être brillante et sentir bon. Le bonheur se passe d'épithètes, on dit le bonheur et cela dit tout. Mais si l'on dit le plaisir sans rien de plus, et sans préciser de quel genre de plaisir il s'agit, tu fronces le sourcil, tu t'inquiètes. Il y a de toute évidence, contre le plaisir, une prévention qui ne saurait exister contre le bonheur. On a l'air de craindre que la recherche du plaisir ne nous détourne du chemin du bonheur. Mais pourquoi le chemin du bonheur serait-il sans plaisir? Et nous détourner du plaisir, est-ce le seul et sûr moyen de nous mettre dans la bonne route? Plaisir d'amour, bonheur d'aimer. La différence du plaisir au bonheur est une différence de durée, plus encore que de qualité. Il n'y a pas de plaisirs éternels, et il faut convenir que s'il y en avait, ce serait bien fatigant. Plaisir ou bonheur, nous ne sommes pas beaucoup plus sûrs de l'un que de l'autre. Et ce sont presque toujours des façons de parler. Faire le bonheur des hommes est une entreprise magnifique, mais faire plaisir aux gens, ce n'est pas déjà si mal. Sous prétexte que tu ne peux pas assurer mon bonheur, ne renonce pas trop vite et si aisément à me faire plaisir. Le bonheur est un sentiment et non pas une sensation. Le plaisir est une sensation ou un sentiment qui peut n'avoir été déterminé que par une sensation. Entre le plaisir et le bonheur, il y a aussi la différence de caractère et de tempérament de ceux qui les éprouvent. En présence du même événement, tel déclarera « Oh, cela me fait bien plaisir !» Et tel autre « Oh, j'en suis profondément heureux !» Dans quelque conjoncture que l'on se trouve, on ne renonce jamais au bonheur. On n'a pas à y renoncer. Ah, à chaque instant, tu peux être appelé à renoncer à un plaisir. Et ce renoncement implique une décision immédiate que tu dois prendre. Oh, il faut souvent un certain courage que le bonheur ne te demande pas. N'est-ce pas une singulière image du bonheur que de le représenter comme une sorte d'épouvantail, un épouvantail à plaisir? Le plaisir n'est pas le bonheur, c'est entendu, mais où voyez-vous que le bonheur ne soit jamais un plaisir? Si pour être heureux dans la vie, nous devons en écarter systématiquement tout ce que nous trouvons agréable, tout ce que nous jugions susceptible de nous faire plaisir, nous serons peut-être heureux, en effet, mais je crains que nous nous en percevions guère. Et puis, il y a, opposé au plaisir du monde, le bonheur qui n'est pas de ce monde, mais cela, c'est une autre histoire. De la gloire. La gloire dépend du jugement des autres hommes. Qui méprise la gloire méprise le jugement des hommes. Est-ce donc là une marque d'humilité? On n'ose pas avouer que l'on aspire à la gloire et seulement, tout au plus, avons-nous pour l'ambition de faire fortune. Mais l'argent et la gloire ne sont pas incompatibles, et la gloire n'est nullement destinée par essence à compenser le manque d'argent. Ni la gloire ni la fortune ne nous viendront par hasard et sans que nous n'ayons rien fait pour elles. Mais c'est encore la gloire plutôt que l'argent qui aurait chance de nous être accordée par-dessus le marché. Tu proclames « la gloire me suffit », on se contenterait à moins. Celui qui possède beaucoup d'argent peut toujours en faire profiter les autres. Mais on ne distribue pas la gloire par morceaux, et qui la possède est bien forcé de la garder pour soi. Il y a des gloires locales, nationales, mondiales. Il y a la gloire des armes et la gloire des lettres, la gloire du savant, de l'artiste. Bref, autant de catégories de gloire que de catégories d'admirateurs et d'objets à admirer. Mais multiple dans ses causes et dans ses manifestations, la gloire est une en ceci que, quelle qu'elle soit, la personne qui en est pourvue, il faudra d'abord que ça se sache. On profite toujours d'un succès, on ne profite pas toujours de sa gloire. Et il n'est pas rare que la gloire récompense trop tard, malheureusement, pour les consoler ceux-là, précisément, qui n'avaient jamais eu de succès. La gloire ne consiste pas essentiellement à être reconnue dans le métro, ni à ne plus prendre le métro. Quand les journaux auront publié ton portrait, si l'on t'affirme « mais c'est la gloire », on exagère. Combien de gens ont donné leur nom à une rue sans que nous sachions pourquoi? Combien de personnages dont nous voyons la statue sans savoir leur nom, sans savoir surtout ce qui rendit ce nom glorieux et ce qu'ils ont fait pour avoir une statue? Quand il s'agit de répartir et de distribuer la gloire, il en est comme de toutes espèces de distribution, comme de toutes espèces de répartition. Il y aura des favorisés et des oubliés. Mais parce que tel n'a pas reçu la part de gloire qu'il mérite et que tel autre a reçu plus qu'il ne mérite, ne va pas rien ou diminuer la gloire de ceux qu'il avait bien mérité. Pour réparer les injustices des hommes, il faudrait que le jugement de la postérité ne fût pas lui-même rendu par des hommes. Entre tous les rêves de gloire ne sont pas les plus dangereux. En tout cas, le danger n'est guère que pour celui qui les fait. Les gens qui travaillent pour la gloire affirment qu'ils n'ont en vue que le bien du pays, le bien de l'humanité. Après tout, c'est peut-être vrai. Prendre le chemin de la gloire, c'est s'engager dans un labyrinthe. Beaucoup manquent de s'y perdre ou reviennent sur leurs pas, découragés. Ne t'en plains pas trop, car sinon, quel encombrement au carrefour et à l'arrivée, quelle bousculade. Il ne peut pas y avoir de la gloire pour tout le monde, à moins d'inventer alors quelque super gloire. De l'homme de génie. C'est une question de savoir si la société a besoin d'hommes de génie. Il est vrai que la question est posée par des hommes qui n'ont pas de génie et qui composent l'immense majorité de la société. Un homme a du génie, il ne le sait pas, personne ne le sait. Il mourra avec son génie et pour celui-là du moins, la question est résolue. Affirmer d'un poète qu'il a du génie est toujours moins compromettant et sujet à caution que d'un inventeur, d'un savant. Le génie d'un poème réside d'abord dans l'affirmation qu'on en fait. C'est à l'usage que se vérifie le génie de la découverte. À défaut d'une marque physique qui décèle l'homme de génie, comme un front démesuré, une loupe ou une bosse, on a voulu se persuader qu'il y avait dans son caractère des traits infaillibles ou le reconnaître, désordonné, distrait, maniaque, peut-être fou, la gloire ne vient que par surcroît. Quand on dit que le génie est une longue patience, le caractère que l'on prête à l'homme de génie semble signifier qu'il exige surtout une longue patience des gens qui sont appelés à vivre avec lui. On peut être désordonné, distrait, maniaque et même fou, et n'avoir pas de génie. On ne se prépare pas à avoir du génie, ce n'est ni une profession ni une carrière. On le prend quand il vient et comme il vient. On se demande parfois où finit le talent et où commence le génie. On se demande parfois aussi où le génie finit et où la folie commence. Il n'y a pas de diplôme d'homme de génie. Et surtout, ne voit-on guère, s'il y en avait, qui aurait qualité pour les décerner. L'expression « vous avez du génie » est tout de même employée, même dans les conversations de salon, d'une façon un peu moins courante que « vous avez beaucoup de talent ». Ainsi, risque-t-on un peu moins souvent de l'attribuer à faux. Vous pouvez toujours vous extasier sur le talent de n'importe qui. Il ne sourcille guère. C'est seulement quand vous lui parlerez de son génie qu'il commencera à sursauter et s'inquiétera peut-être si vous parlez sérieusement. À côté des hommes de génie, il va sans dire qu'il y a aussi des femmes de génie, qui sont bien rarement d'ailleurs les propres femmes de ces hommes de génie. Et sans doute est-ce mieux ainsi, et cela vaut mieux pour leurs enfants, s'ils avaient des enfants. Génie est un substantif masculin, mais c'est presque un nom de femme. Si l'on te demandait de dresser, séance tenante, la liste des hommes et des femmes de génie du monde entier et depuis le commencement du monde, combien en trouverais-tu? Et combien en trouverais-tu encore l'année prochaine? On a dit de tel ou tel qu'il n'avait réussi à rien dans l'existence parce qu'il n'avait que du génie. Mais est-on bien sûr d'abord qu'il avait du génie? Les gens qui affirment l'incompatibilité du génie et du bon sens n'ont probablement aucun génie et certainement n'ont pas de bon sens. De la guerre et de la paix. Tous les hommes sont d'accord pour haïr la guerre et souhaiter la paix. Et cependant, comme ils ont du mal à s'entendre, que serait-ce s'ils n'étaient pas d'accord? On en arrive à ce point de ne plus discerner exactement si l'état naturel est l'état de guerre, que la paix vient seulement interrompre, ou l'état de paix que les guerres s'appliquent à troubler. Il faut toujours un premier agresseur, que ce soit le chasseur ou que ce soit le lapin. Verra-t-on les mêmes gens qui tous appellent la guerre un fléau et la paix un bienfait des dieux, se persuader que d'aucuns préfèrent le fléau, et qui pis est, se résoudre eux-mêmes à un choix aussi absurde? On a parfaitement raison de conseiller aux gens qui veulent la paix de préparer la guerre. Le danger est que, lorsqu'ils s'y sentent prêts, ils la fassent. Ou bien tu prépares la guerre, ou bien tu répares les maux que la guerre a causés. Et la paix dans tout cela? Quand donc auras-tu le loisir d'en jouir? Il n'y a pas la paix d'une part et d'autre part la guerre. Il y a la guerre et la crainte de la guerre que l'on fait et celle que l'on craint. Allez donc convaincre des gens qui viennent d'être battus que c'est aussi bien ainsi et plutôt mieux que s'ils avaient battu leurs adversaires et qu'ils n'ont qu'à s'en tenir là-bas, battus et contents. Une guerre où il n'y aurait ni vainqueur ni vaincu aurait-elle chance d'être la dernière guerre? Pas davantage. Pour croire dur comme fer que c'était eux qui méritaient la violente victoire et qu'ils en ont été injustement frustrés, pour sauter sur la première occasion de le montrer à la face du monde, il serait deux au lieu d'un. Comment voulez-vous que les peuples composés d'individus, menés par des individus, échappent aux mobiles individuels? Orgueil, envie, esprit de revanche, besoin de s'affirmer le plus fort, surtout lorsqu'une première fois on avait trouvé plus fort que soi. Chaque guerre nouvelle passe toujours aux yeux de ses témoins, de ses acteurs, pour une guerre sans précédent, c'est-à-dire qu'ils la regardent comme dépassant en horreur toutes les précédentes. Tant que l'on imagine que la guerre, emportée par ses propres excès, finira par s'exterminer elle-même, n'en crois rien. Quand les guerres seront parvenues à ce paroxysme insoutenable, elles recommenceront plutôt à pied d'œuvre, avec des pierres. C'est un fait que les images guerrières, les expressions empruntées à la guerre, sont les plus fréquentes et que même le vocabulaire de la paix y puise volontiers. Le langage des pacifistes possède par dénégation et contradiction, puisque par formule positive. Et comme ceux qui le parlent sont agressifs, ne serait-ce pas déjà un petit progrès, si de toutes les conversations, aussi bien entre les peuples qu'entre les particuliers, les mots de guerre et de paix étaient soigneusement proscrits, et tous les mots nés de la paix et de la guerre. Mais comment parlerait-on et de quoi parlerait-on? Parler de la guerre, ce n'est pas aimer la guerre. Il y aura des guerres, hélas, tant qu'il y aura des hommes et qui pensent à la paix. De la justice. Un homme juste boit, mange, dort en oubliant qu'il est juste. Sinon la pensée de trop d'injustice l'empêcherait de dormir et lui couperait l'appétit. J'admire l'homme qui sait être juste à l'égard des autres, mais l'homme juste avec soi-même, oh, voilà la merveille. Honorant que ce que l'on a pris, cette justice qu'il est toujours question de rendre, où donc et à qui l'avait-on prise? On a souvent remarqué que tous les enfants possèdent un vif sentiment de la justice, et qu'il n'est rien de plus fâcheux que de les punir injustement. Le sentiment de la justice est inné chez l'homme, comme le bon sens. C'est une forme du bon sens. On donne ce même nom de justice à une vertu et à une administration. Et sans doute la justice-administration s'efforce-t-elle de son mieux à s'inspirer de la justice-vertu. Mais comment administrer la vertu? L'administration de la justice se flatte d'être égale pour tous. C'est annoncé qu'elle ne sera tout à fait juste que pour personne, ni cependant tout à fait injuste. S'il est vrai que la justice soit une forme du bon sens, comment un magistrat qui juge selon les formes n'a-t-il jamais le droit de juger selon son bon sens? À chacun son dû, voilà la justice. Où la difficulté commence, c'est quand il s'agira d'apprécier, de préciser exactement ce qui est dû à chacun. On te recommande de juger sans passion. Sois passionné, au contraire, lorsque tu juges, passionné de vérité. Sévère mais juste, dis-tu. Mais on n'est jamais sévère quand on est vraiment juste. On méprise et l'on condamne justement le juge indigne, le juge inique et prévaricateur. Mais toi-même, quand devant le tribunal de ta conscience, tu absous si légèrement les fautes les plus lourdes que tu as commises, tu profites sans remords des avantages que tu en avais retirés, juge indigne, juge prévaricateur. Ne songes-tu pas à te mépriser, à te condamner? Trop souvent, le tribunal de la conscience n'est qu'un tribunal bénévole, comme un tribunal d'amateurs, dont la juridiction commode nous sert à éviter la rigueur des autres tribunaux. Toute personne à qui l'on déclare d'un air confus « Oh, vous allez me juger bien mal », il y a des chances pour que l'on se soit déjà assuré de son indulgence ou que l'on ait acquis sa complicité. Pour être tout à fait juste, il faudrait que la justice fût rendue dans une île déserte. Mais alors, qui jugerait-on? Tu te plains des lenteurs de la justice, mais combien la plupart de nos jugements sont pourtant sommaires? Que la justice fût lente ne serait rien si on en était toujours sûr de pouvoir compter sur elle. Compter sur la justice, c'est d'abord compter qu'elle jugera en notre faveur. Puis on appelle à la justice divine, à la justice immanente. C'est à elle seule que tu veux croire et désormais t'en rapporter. Paresseux. Des grands problèmes. Les grands problèmes sont ceux pour lesquels on ne connaît pas de solution. À partir du moment où il y a solution, il n'y a plus problème, grand ni petit. À voir avec quelle aisance, au fumoir, certaines personnes abordent et tranche les grands problèmes, un verre de vieille fine à la main, on se demande si les savants et les philosophes ont jamais bu de vieille fine. Déjà, on vous attrape par le bouton de votre veste, vous regarde fixement tout au fond des yeux et en vous soufflant dans le nez déclare « Moi, je ne crois pas à l'immortalité de l'âme » d'un ton qui ne supporte pas la discussion. Il y en a d'autres qui protestent. « Oh, moi, l'éternité, ça me dépasse. » Et il ne manque pas d'ajouter « Traitez-moi d'imbécile, si vous voulez. » Entendu. Et c'est le même qui vous dira encore « Moi, je croirais qu'il y a l'au-delà lorsque j'y serai allé. » Bon voyage. Pour résoudre un problème d'algèbre ou de trigonométrie, il faut avoir fait de l'algèbre, avoir fait de la trigonométrie. Il n'est personne qui s'aventurerait à parler d'astronomie et de cosmogonie s'il n'a étudié des traités d'astronomie, des traités de cosmogonie. Mais le premier venu se flatte de posséder en lui toute la science métaphysique, ou du moins l'entendras-tu nier et affirmer comme s'il avait fait le tour de tous les systèmes de métaphysique, dont il ignore même les noms. Il y a des bergers qui apprennent à lire les secrets de la destinée dans les étoiles. Mais nous ne sommes pas des bergers, et où et quand regardons-nous les étoiles? À celui-là qui se proclame matérialiste, demande un peu en quoi consiste pour voir le matérialisme. Mais toi-même, pour le lui demander et pouvoir contrôler sa réponse, le sais-tu exactement? Simplement, tu te contentes de proclamer que toi, tu n'es pas matérialiste. L'ignorance quasi générale qui entoure les grands problèmes permet de leur donner plus facilement un plus grand nombre de solutions. Qu'en sait-on et qu'est-ce qu'on risque? Ne pourrait-on consacrer à l'étude des preuves de l'existence de Dieu, par exemple, ou de l'immortalité de l'âme, et même pas à les étudier, à les méditer un peu et à y réfléchir, la moitié seulement du temps que nous emploierons à rechercher des mots croisés? Des gens vous diront que pour gagner leur vie et l'organiser, ils ne se soucient pas et n'ont nul besoin de savoir s'il y a ou non une vie future. L'éternité, quelle heure est-il? C'est précisément parce que les solutions de bon sens s'applique à la plupart des cas, qu'il ne faut pas vouloir à toute force les appliquer à tous les cas. L'homme raisonnable est celui qui sait reconnaître que la raison ne peut pas toujours suffire. De la mort. Parler de la mort, c'est parler sans savoir. Les gens qui n'ont pas peur de la mort, j'attends qu'ils me le disent sans rire. Pour être prêt à la mort, il faudrait être prêt à tout. Et qui est prêt à tout n'est prêt à rien. Ne pensez jamais à la mort, quelle imprudence. Y pensez toujours, quelle torture. Croire que tout finit avec la mort, comme c'est triste. Croire que tout commence avec elle, comme c'est effrayant. Si nous n'étions ni si légers, si oublieux, oserions-nous jamais nous endormir? Il ne faut tout de même pas que les gens nous racontent qu'ils ont vu la mort en face. S'ils l'avaient vue, ils ne seraient pas là. Il est exact que l'on s'accoutume à l'idée de la mort et même à la mort quand il s'agit de celle des autres. Pour ce qui est de notre propre mort, nous n'aurons que trop le temps de nous y accoutumer. La mort t'effraie moins, dis-tu, que la souffrance physique quand elle l'accompagne. C'est que tu sais en quoi consiste la souffrance physique, tandis que la mort ne t'a jamais donné ses références. On parle de la belle mort de celui qui ne s'est jamais senti mourir. C'est-à-dire que ne vous êtes pas aperçu qu'il mourait, mais lui. Il est bien difficile de se représenter au ciel la vie des bienheureux, autrement qu'avec les différentes modalités de notre existence terrestre, dont on aurait supprimé simplement tous les petits désagréments, tout ce qui nous gêne et ce qui nous choque. Même pour imaginer les concerts célestes, les concerts de trompettes et de harpes, n'avons-nous pas dans l'oreille le son de vraies harpes et de véritables trompettes? Puisque ceux qui n'ont pas la foi doivent, concernant la mort, s'en tenir à une hypothèse. On n'arrive pas à comprendre comment il s'obstine à rejeter, du moins comme une hypothèse, ce que la foi nous présente comme la certitude la plus consolante et la plus rassurante. C'est un grand orgueil, une grande sottise, que de vouloir être ni consolé ni rassuré. Nous répétons sur tous les tons que la vie est une vallée de larmes et que nous sommes prêts à la quitter sans regret. Nous le répétons pour tâcher de nous en persuader. Mais nous ne persuadons ni nous-mêmes ni personne. Et si la vie est une vallée de larmes, qu'ils sont peu nombreux ceux qui ne pleureront pas toutes leurs larmes à l'instant de ne plus pleurer. Un sentiment à l'heure de la mort pourrait en atténuer la tristesse désolée, c'est un sentiment de curiosité. Mais il faudrait être joliment curieux pour se montrer à cette heure, curieux à ce point. On consent à mourir quand on ne peut plus faire autrement. Que les vivants sont donc hypocrites avec les morts. Que ceux qui restent soient plus à plaindre que ceux qui s'en vont. Dites cela dans une gare, peut-être, mais pas dans un cimetière, sauf pour ceux qui resteront dans le cimetière au fond de leur tombe. Jusqu'à quel âge déclareras-tu que mieux vaut échapper aux infirmités de l'âge, que mieux vaut ne pas vieillir? Tu ne crois pas que le premier homme qui ne mourra pas, ce sera toi? Tu te défends de le croire, mais la bienheureuse incertitude où tu demeures, de la minute précise de ta mort, te laisse un goût d'immortalité, comme l'illusion d'être immortel. Évidemment, il faut se faire une raison. Mais laquelle ?